le magazine des Nations Unies.
Ban Ki-moon encourage les Congolais à aller au dialogue, mais un dialogue dans le respect de la Constitution. Le secrétaire général de l'ONU le dit dans un rapport présenté jeudi à New York sur la situation en RDC. Et dans l'entretemps, la MONUSCO se dit prête à soutenir la commission électorale indépendante en vue de l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées. Les précisions dans cette édition. Et puis environ 7 millions de dollars du gouvernement canadien pour soutenir l'enregistrement des naissances en RDC. Cette opération, qui vaut autant que la vaccination et l'allaitement maternel, n'atteint que 25% d'enfants en RDC, selon l'UNICEF. Nous en parlons dans un instant avec un expert de l'UNICEF. Ce sera l'invité de ce dimanche. Enfin, cette sonnette d'alarme de Otcha, 7,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire en 2016, dont 4,5 millions exposés à une insécurité alimentaire sévère. Les détails également dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci d'écouter le magazine de Nations Unies. Nous le disions en titre, Ban Ki-moon encourage les Congolais à aller au dialogue, mais un dialogue dans le respect de la Constitution. Le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la RDC a été présenté au Conseil de sécurité jeudi dernier à New York. Les décisions sur ce rapport sont attendues en mars prochain. Jean-Pierre Elali, vous avez d'autres détails pour nous. Bonjour.
Bonjour Tina, pour Ban Ki-moon, les Nations Unies sont donc prêtes à favoriser le dialogue national en RDC. Un dialogue ouvert à tous et respectueux de la Constitution, des libertés et des droits politiques et fondamentaux, souligne encore le secrétaire général. Et ce dialogue devrait, dans l'entendement de Ban Ki-moon, déboucher sur un consensus autour d'un calendrier électoral réaliste, assorti des délais pour la mise à jour des listes électorales crédibles. Au passage, le secrétaire général regrette et qu'aucun progrès n'ait été réalisé dans les préparatifs techniques des élections en raison notamment de l'insuffisance du financement. Déjà en début de semaine, son représentant spécial en RDC, Maman Sidikou, avait donné le ton. Il ne fallait pas, estimait-il, qu'on perde trop de temps à politiser des problèmes techniques relevant de la compétence de la CENI. On l'écoute.
Il faut que chacun soit dans son rôle. C'est le rôle de la CENI de préparer les choses de façon claire, indépendante, inclusive et crédible. C'est le rôle des partenaires politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition, de se mettre d'accord sur le reste. Ne demandez pas à la CENI de faire plus que ce qu'elle peut faire. Mais je peux ajouter, in fine, que les partenaires sont prêts en ce qui concerne un soutien à la révision du fichier électoral. Qu'on nous dise simplement comment ça va être fait, etc. C'est quand le jour J pour que nous commencions. Parce que ça, c'est un préalable à tout le reste. Et c'est aussi un travail technique, au fond. Peut-être pas que nous perdions trop de temps à politiser ça. Il faut que nous trouvions une formule assez rapide sur cette question-là.
Fichier électoral, nouveau majeur, glissement, des concepts évoqués au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier à Kinshasa. Le porte-parole intérimaire de la MONUSCO et directeur de l'information publique a, à ce sujet, indiqué la disponibilité de la MONUSCO à soutenir la CENI. Pour Charles-Antoine Bambara, vous allez l'entendre tout à l'heure, la MONUSCO n'attend plus que l'état de besoin de la CENI pour se mettre en action. Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Lali Coco.
Et comme vous l'avez entendu de la bouche même de M. Sidikou, il a dit que nous attendons le cahier de doléances de la CENI pour savoir exactement ce dont ils ont besoin, quand est-ce qu'ils ont besoin, de quoi exactement, pour qu'en réponse, la communauté internationale, donc les agences du système des Nations Unies, puissent apporter cet appui technique, financier, pour ce travail qui est très important. Il a été très clair, nous sommes prêts, nous, à notre niveau, pour aider la CENI, mais il faut que nous sachions très exactement ce dont elle a besoin. Et une fois que M. Nanga Corneille et ses experts apporteront sur la table de la communauté internationale leur doléance, ces doléances seront aussitôt prises en compte, c'est ce que je peux vous assurer.
Un autre volet de l'actualité, au moins 7,5 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire et de protection en 2016, dont, nous le disions, 4,5 millions frappés par une insécurité alimentaire sévère. C'est en tout cas ce que OCHA, le bureau de coordination humanitaire, dans son plan de réponse humanitaire 2016 a rendu public le 6 janvier dernier. Jean-Pierre Elali Coco revient en termes chiffrés cette fois-ci sur les besoins humanitaires contenus dans ce document.
Selon Otia, la République démocratique du Congo traverse une crise complexe et prolongée aux proportions massives. Des décennies de chocs successifs ont intensifié les besoins humanitaires et la vulnérabilité. À la base de cette situation, des violences et des conflits, des flambées d'épidémies, la malnutrition aiguë persistante et l'insécurité alimentaire. Bien que le besoin humanitaire se manifeste sur l'ensemble du territoire national, souligne encore les documents, l'Est de la RDC demeure la partie du pays la plus frappée par la crise, avec plus d'un million de déplacés internes. À l'instar des précédentes périodes d'élections générales, la population s'apprête donc à traverser une année particulièrement agitée, note encore le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. OCHA précise que le nombre de personnes en besoin d'assistance humanitaire devrait passer de 7 millions à 7 millions et demi en 2016.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme alimentaire mondial PAM-RDC a présenté jeudi 14 janvier 2016 à la presse à Kinshasa la cartographie de la vulnérabilité en insécurité alimentaire réalisée dans le cadre du projet MVAM qui veut dire en anglais Mobile Vulnerability Assessment and Mapping. Et selon cette cartographie, 4,5 millions de personnes se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire sévère, principalement dans les régions de l'Est de la RDC et auront donc besoin d'une assistance. Messieurs Olosib, en charge de ce programme, l'a souligné dans un entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Sib Olo, bonjour.
Monsieur, bonjour.
C'est quoi une cartographie de la vulnérabilité en insécurité alimentaire?
La cartographie de la vulnérabilité en insécurité alimentaire est un outil d'analyse qui a été développé, on va dire, en gros par le PAM, mais aussi avec tous les acteurs comme la FAO, qui nous permet de façon régulière de traduire l'information sur la sécurité alimentaire à travers des cartes, à travers des images visuelles, pour expliquer aux décideurs, montrer aux décideurs là où se trouvent les zones de vulnérabilité, là où se trouvent les populations en insécurité alimentaire, pour qu'il y ait des décisions qui soient prises en faveur des populations qui sont localisées dans ces zones en particulier.
Donc c'est un projet piloté par le PAM?
Alors le MVAM, alors si on revient au projet qu'on vient de présenté, c'est un projet que le PAM a développé en tant qu'agence, mais qui peut être aussi un projet qui peut être adopté par d'autres agences en dehors du PAM, et dans le cadre de la RDC en particulier, nous sommes en train de travailler dur pour que cet outil vienne compléter les autres outils de suivi de la sécurité alimentaire, et on travaille dur aussi pour que ce soit un outil qui soit adopté par le gouvernement dans le cadre du suivi de la sécurité alimentaire dans le pays.
En fait, c'est quoi son objectif?
L'objectif du MVAM, c'est de pouvoir s'assurer qu'on a des collectes d'informations régulières sur la sécurité alimentaire, que ce système-là va nous permettre de collecter ces données à moindre coût. C'est un système qui est flexible, qu'on peut adapter à toute condition, à tout contexte, et c'est un système qui nous permettra de donner de l'information en temps réel.
Vous avez déjà collecté beaucoup d'informations. Comment se présente aujourd'hui cette cartographie?
Alors, pour les zones où le MVAM fonctionne, le test pilote est en place depuis 2012 dans l'est du Congo et en particulier dans les zones, dans les camps de réfugiés. Et on peut vous dire avec exactitude qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des zones où la situation alimentaire dans ces camps est toujours fragile pour ces populations déplacées. À l'échelle du pays, la dernière évaluation IPC, comme on appelle, donc classification intégrée de la sécurité alimentaire qui a été faite pour le pays, avec le PAM, la FAO, toutes les autres agences engagées dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, nous dit qu'il y a 4,5 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire sévère et qui auront besoin de notre assistance. Et ces personnes sont localisées principalement dans les zones de l'Est, selon la cartographie de la vulnérabilité qui a été faite.
Alors comment vous procédez pour pouvoir récolter toutes ces informations?
On a différentes méthodes, mais tout se résume en un mot, une enquête. Les informations sont récoltées via des enquêtes. Ces enquêtes peuvent être faites de différentes façons. Donc, on a des enquêtes face à face. Ça veut dire qu'en ce moment, vous déplacez des équipes qui vont discuter avec des ménages, avec des questionnaires, ils récoltent des données. Mais aussi, ces enquêtes peuvent se faire par la méthode qu'on vient justement d'expliquer, donc qui est le MVAM, ou plutôt c'est des données qui sont collectées, on va dire, par mobile, et vous n'avez personne sur le terrain pour faire des enquêtes face à face. Mais oui, tout le reste, les enquêtes, aident à collecter les données.
Oui, par rapport aux informations que vous avez déjà recueillies, est-ce qu'il y a des leçons à tirer?
On a beaucoup de leçons à tirer. C'est qu'il est important d'avoir un système de suivi qui permet de donner des informations en temps réel et des informations de façon régulière. Ce que, vu la taille de notre pays, si nous n'utilisons pas les nouvelles technologies de l'information, ce serait extrêmement difficile de le faire. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que ces informations, on peut les collecter à moindre coût. Ce que, encore une fois de plus, vu notre contexte, la taille de notre pays, les défis logistiques, les défis d'accès, il est difficile de mettre en place si on n'utilise pas les technologies. Donc, ça, c'est aussi un autre avantage important qu'on a. Et surtout, pour les populations qui sont dans des zones parfois reculées, le fait de nous avoir au téléphone, de nous parler, d'expliquer leurs problèmes, d'expliquer leurs besoins, c'est aussi une sorte de réconfort. Donc, il y a le côté aussi sentimental, humain, que l'outil permet de développer, qui est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
Dernière question, peut-être par rapport à toutes ces leçons. Donc, c'est un projet qui est appelé à être étendu à d'autres provinces, à d'autres contrées.
Notre idée, c'est de pouvoir l'étendre à tout le pays et de collecter de façon régulière des informations au niveau des territoires et que ces informations soient régulièrement collectées, remontent régulièrement, qu'elles soient analysées et données aux personnes qui prennent les décisions dans le pays.
Monsieur Sibe Olo,
merci.
Merci, monsieur.
Transformer les producteurs en potentiels entrepreneurs agricoles dans la filière manioc, c'est en tout cas l'objectif de deux centres d'incubation de micro-entreprises agricoles rurales que la FAO vient d'implanter à Mbakana dans l'Interland de Kinshasa et à Kintese au Congo central. La remise officielle du centre de Mbakana a eu lieu le 6 janvier 2016. Il s'agit des unités de transformation du manioc dans le cadre d'un projet pilote visant l'amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des populations rurales. L'unité de Mbakana accompagnera donc les opérateurs de la filière manioc de Kinshasa et de la nouvelle province du Kwango et celle de Kimpese, ceux donc de la province du Congo central. Enfin, un intérimaire à UN Paul, la police de la MONUSCO, le colonel Tabaski Diouf assure depuis le 7 janvier 2016 l'intérim du chef de la police des Nations Unies en RDC. Il remplace à cet effet le général Pascal Champion, arrivé fin mandat après 2 ans au service en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
En RDC, l'enregistrement des naissances à l'état civil n'est que de 25% d'après les enquêtes menées dans ce domaine. Le gouvernement et l'UNICEF ont mis en place une stratégie visant le couplage de l'enregistrement des naissances et des services de santé, et notamment les maternités dans le cadre d'un plan d'action pour l'état civil 2014-2018. Un plan qui vient de bénéficier d'un appui financier du gouvernement canadien d'environ 7 millions de dollars américains. Pour en parler, le magazine des Nations Unies reçoit M. Gabriel Vauquel. Il est gestionnaire de la protection sociale et légale à l'UNICEF. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Gabriel Vauquel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gestionnaire de la protection sociale et légale à l'UNICEF. L'UNICEF appuie les gouvernements dans un vaste programme d'enregistrement des naissances. Et quelle est l'importance pour un parent d'enregistrer son enfant à l'état civil?
L'importance pour les parents d'enregistrer leurs enfants a plusieurs aspects. Tout d'abord, qu'il faut dire, c'est que l'enregistrement rend chacun visible dans le sens que c'est la première fois dans la vie d'un garçon ou d'une fille que l'État reconnaît de façon officielle cet être humain, et c'est pour cela qu'on dit que l'acte de naissance donnait après l'enregistrement l'identité juridique. Mais dans un sens assez pratique, l'acte de naissance qui suit l'enregistrement met en évidence l'âge de l'enfant, montre clairement sur un document officiel quand le bébé a été né, et établit en même temps les liens familiaux. Et c'est grâce à ça que l'acte de naissance permet aux enfants de bénéficier, par exemple, d'une protection spéciale en tant que témoin ou victime de crime. Donc, par exemple, si un garçon ou une fille devient victime de crime à l'âge de 14 ans, c'est la loi portant protection qui lui donne le droit à une protection spéciale, et c'est à travers l'acte de naissance que l'enfant sera capable de prouver son âge. Et c'est pour cela aussi que UNICEF appelle l'acte de naissance un passeport de protection, parce que grâce à ce document, l'enfant est capable de faire prévaloir tout un nombre d'autres droits.
Et pour l'État congolais?
Oui, pour l'État congolais, je crois qu'il y a deux aspects qui sont très importants à retenir. Le premier, c'est la planification. Et c'est ce que je veux dire par ça, c'est que uniquement en sachant où et quand en RDC sont nés les enfants, et aussi où, quand et pourquoi la population meurt, et que l'État est équipé pour planifier ces différents services de base. Donc ceci implique la santé, l'éducation et aussi la protection sociale.
Et tout cela c'est avec l'appui de l'UNICEF ?
Effectivement, nous appuyons le gouvernement de monter le taux d'enregistrement des naissances et c'est en effet l'état civil qui est le seul système étatique à générer cette information. Et le deuxième aspect pour l'état congolais, c'est en fait un aspect des droits humains et c'est donc en enregistrant les naissances que l'état congolais pourra mieux répondre à ses obligations qui sortent de la Convention des droits des enfants ainsi que de la Charte africaine qui ont été les deux ratifiées par l'État. Donc c'est la responsabilité de l'État d'offrir ce service et cela a été d'ailleurs traduit par la Constitution de la RDC ainsi que par le Code de famille et la loi portant protection.
Gabriel Vauquel, faisons un tout petit peu l'état des lieux de l'enregistrement des naissances en République démocratique du Congo à l'étape actuelle.
À cet instant, les enquêtes que nous avons menées, d'ailleurs ensemble avec l'État congolais, c'est l'enquête démographique et de santé de 2013 et 14, et puis l'enquête à grappes multiples de 2010, ils ont fait l'état des lieux que seuls 25% des enfants au niveau national sont enregistrés.
C'est très peu.
Effectivement, c'est très peu, et malheureusement, quand on regarde les enfants qui tiennent donc physiquement l'acte et dans leurs mains, ce chiffre au niveau national pour les enfants de moins de 5 ans tombe en effet à 14%.
Alors, qu'est-ce qui sera la base de ces faibles taux d'enregistrement des naissances en République démocratique du Congo?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent être citées. D'un côté, c'est une question d'allocation budgétaire à T4. Donc, l'État congolais à ce moment n'investit pas encore suffisamment dans ce domaine. Pour être précis, à part des salaires des différents officiers des bureaux d'état civil partout dans le pays, il n'y a en fait aucune ligne budgétaire qui existe en ce moment pour l'état civil et l'enregistrement des naissances, comme tout autre service d'état, coûte de l'argent. C'est pour cela que UNICEF fait le plaidoyer à ce que l'état puisse mettre plus de mesures dans ce domaine. Et de l'autre côté, il y a aussi à citer une demande qui est toujours faible de la part des parents qui veulent donc faire enregistrer leurs enfants.
C'est dû à quoi? À l'ignorance des parents?
En effet, en partie, c'est pas tous les parents qui voient tout à fait les enjeux de l'enregistrement de naissance, parce que l'acte de naissance semble des fois ne pas avoir tellement d'importance dans la vie quotidienne, mais comme je viens de citer plus tôt, il y a tout un nombre de bénéfices importants pour l'enfant lui-même et les familles. C'est pour cela que UNICEF essaie de renforcer la demande communautaire en expliquant les enjeux de l'enregistrement et les bénéfices.
Est-ce que vous pouvez nous citer les provinces qui sont concernées par ces faibles taux d'enregistrement des naissances?
C'est d'abord le Nord Kivu qui montre un taux le plus faible dans le pays avec seulement 7% des enfants enregistrés et encore moins d'enfants qui tiennent donc le papier dans leurs mains. Suit par la province orientale avec 9% et puis le Maniema avec 16%. Peut-être pour ajouter un point positif, pour comparer les provinces à taux faible, il y a aussi quand même le Bandundu qui a déjà pu enregistrer 52% de ses enfants, suit par la capitale, la province donc de Kinshasa avec 39%. Et puis en troisième lieu, il y a le Bas-Congo qui a aussi pu enregistrer 37% des enfants.
Le ministère de l'Intérieur s'est doté d'un plan d'action pour l'état civil 2014 et 2018 et vous le savez, l'UNICEF accompagne bien sûr le pays dans ses programmes. Nous sommes déjà en 2016, Gabriel Vauquel, quelles sont les actions ou les stratégies menées à ce jour dans le cadre de ces plans d'action et aussi on peut avoir une idée sur le résultat?
Absolument. En fait, ce plan d'action pour l'état civil 2014 jusqu'à 2018 est un document de grande importance parce qu'il donne un véritable cadre stratégique national pour la modernisation et la redynamisation de l'état civil. Et il connaît plusieurs axes stratégiques. Je vais peut-être pas les citer tous, mais l'axe qui est très important pour l'UNICEF et aussi pour l'État congolais, c'est en fait le rapprochement des services d'enregistrement des naissances avec le secteur de la santé.
Donc les maternités.
Voilà, précisément les maternités. C'est donc le couplage entre l'enregistrement des naissances et les services des maternités où, surtout, il devient plus facile pour les mamans de faire enregistrer leur bébé nouveau-né. Donc, ceci fonctionne à travers un système de procuration. Nous sommes très heureux de pouvoir dire que depuis juste le début de cette année, nous sommes en train de commencer de travailler avec un financement important du gouvernement de Canada que nous venons de recevoir et à juste titre, l'axe stratégique du couplage de l'état civil avec le secteur de la santé sera mis à l'échelle partout en RDC et on espère que cela va nous aider à renforcer de manière significative le taux d'enregistrement des bébés en RDC.
Et les financements canadiens, là, on peut avoir les chiffres, si ce n'est pas un secret?
Non, ce n'est pas un secret. Il s'agit d'autour de 7 millions de dollars US qui sont dédiés à un programme très important qui couvre toute la RDC pour une durée de 3 ans.
Alors, pour terminer, Gabriel, un petit message peut-être aux parents?
L'acte de naissance est un véritable passeport de protection. Et donc, aux parents, j'aimerais bien dire, venez dans le délai légal de 90 jours pour enregistrer gratuitement votre enfant au bureau d'état civil le plus proche de votre domicile. Et je dirais que comme nous donnons les vaccinations et le lait maternel à nos bébés, il faut aussi penser à l'acte de naissance pour la bonne protection de votre enfant.
Gabriel, je vous remercie de votre disponibilité.
Je vous remercie.
Nouvelle en province. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont chassé mardi dernier 4200 personnes de leurs habitations et rasé complètement le site de Mokoto qui les abritait. Elles sont 10 km au nord-ouest de Goma. Information livrée ce mercredi à la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Le chef de bureau de coordination des affaires humanitaires en RDC, Ren Paulsen, déplore ce démantèlement et appelle la communauté humanitaire à prendre la mesure de cette action et à formuler des recommandations pour éviter d'autres fermes abrupte comme celle-ci. Sylvestre Toumba Mudinga, chargé de communication à Ocha, évoque ici les circonstances et les causes de ce démantèlement.
Effectivement, depuis hier, les autorités du Nord Kivu ont décidé de démanteler complètement le site de déplacement de Mokoto, qui est à quelques 70 km de Goma. Et ce matin, Ocha a pris position par rapport à ce démantèlement. Les autorités de la République démocratique du Congo ont l'obligation de sécurité vis-à-vis de leur citoyens, mais on déplore la manière dont les choses se sont faites. Il y a une semaine, une arme a été découverte dans ce site de déplacement et à la suite de cette découverte d'armes, les autorités ont décidé, pour des raisons de sécurité, disent-elles, de démanteler ce camp.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Nous avons sélectionné pour vous ce dimanche une question d'un confrère de Goma sur les réfugiés burundais rwandais en RDC, suivi de la réponse de Andreas Kirchhoff, administrateur principal régional chargé des relations extérieures au ACR.
Mon nom est Fidel Bafilemba pour Wishing Pictures, basé à Goma. Puisque vous avez parlé de la fille de réfugiés burundais, je voudrais savoir s'il existe au Congo, ou principalement au Kivu, des réfugiés rwandais, et si oui, où est-ce que nous les localisons, qui s'occupe de leur protection? Merci beaucoup.
Les réfugiés burundais se trouvent surtout au sud Kivu. Le camp de Lusenda a été mentionné dans le contexte des craintes de sécurité. Je voudrais juste mentionner que ce camp de Lusenda, qui héberge plus que 10 000 réfugiés burundais, est un lieu relativement sûr et il est très loin de la frontière. Donc, les soucis sécuritaires se focalisent sur à la présence des ressortissants burundais qui sont proches de la frontière terrestre et le camp de Lusenda et en suivant le lac Tanganyika vers le sud, très loin de cette frontière. Il est sécurisé par la police. Pour cela, on n'a pas trop de craintes concernant une infiltration ou de la participation dans des activités militaires. La sécurité, en général, est relativement bonne. Deuxièmement, il y avait la question sur la présence de réfugiés rwandais, si j'ai bien compris. Il y a effectivement des réfugiés rwandais en RDC depuis très longtemps, depuis les années 90, liés à la crise au Rwanda. Malheureusement, on ne sait pas exactement leurs chiffres, hein, parce qu'ils sont éparpillés dans le territoire. Actuellement, les HCR, il est en train de continuer un exercice d'enregistrement biométrique dans beaucoup de zones où il se trouve derrière Rwandais. Il appelle tous les réfugiés rwandais qui veulent garder leur statut de réfugié pour le moment de se faire enregistrer biométriquement pour qu'on sache leur nom, leur composition familiale, etc. Il y a aussi une opération de rapatriement volontaire qui se poursuit depuis des années. Il y a des milliers de réfugiés rwandais qui sont rentrés en toute sécurité dans leur pays et cet enregistrement ouvre la possibilité de rentrer volontairement au pays, même s'il n'oblige pas la personne qui se fait enregistrer de rentrer.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Jennifer Kalongi. Je suis célibataire et je poursuis mon troisième cycle professionnel en communication humanitaire et solidarité à l'Université Lyon 2 en France. Actuellement, je suis assistante en communication à l'unité relations extérieures au programme alimentaire mondial à Kinshasa. Au quotidien, j'appuie l'équipe de relations extérieures dans les activités de communication, dans une optique d'apprentissage, de renforcement des capacités et d'acquisition de connaissances. J'en profite également pour compléter ma formation académique. J'assiste aussi le point focal de l'information publique du Bureau Pays dans la conception et la production de contenu, comme les messages pour les médias sociaux, et dans l'organisation de conférences et cafés de presse. J'assiste le responsable de l'unité relations extérieures dans la préparation et l'actualisation de la stratégie de communication. Avant de rejoindre le programme alimentaire mondial, j'ai été stagiaire et bénévole dans la cellule de communication à la Caritas Congo de 2008 à 2013. Ensuite, j'ai été bénévole à l'UNICEF Lyon en France et aussi bénévole dans Village Pilote, toujours à Lyon. En fait, Village Pilote est une ONG française qui élabore et exécute des projets au Sénégal en faveur des enfants de la rue. Mon temps libre est consacré aux promenades entre amis et selon le calendrier des activités effectives françaises ou congolaises. Je consacre également une bonne partie de mon temps à la méditation de la parole de Dieu, chose primordiale dans la vie de chrétien. Question de se retrouver face à soi, à soi-même, face à Dieu et aussi face au prochain. J'aime la musique en général, en sport j'aime le tennis que je pratique après mes heures de cours. J'aime cuisiner et décorer la table avant le repas. Comme projet d'avenir, après mon stage au programme alimentaire mondial et après mon troisième cycle en communication humanitaire, j'aspire à devenir spécialiste en communication dans le secteur humanitaire et du développement afin de promouvoir le cause humanitaire, social et développement au moyen de nouvelles technologies de l'information et de la communication et aussi au moyen de la conception et de la réalisation de messages répondant à un projet de vulgarisation.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Deux rendez-vous à retenir dans le calendrier des Nations Unies, la semaine qui commence. Le 19 janvier, 133e réunion du programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce sera à Nairobi, au Kenya. Et puis du 20 au 22 janvier, réunion du groupe d'experts pour l'examen des INS. INS, c'est le programme identifiant national de santé. Puis cette réunion se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie, au centre des conférences des Nations Unies. Et voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet. Vous n'avez qu'à taper le www.radiocalpi.net. Merci à Jean-Pierre et Lali Coco qui étaient à la coordination et au reportage. Honoré Missenga Kalala au reportage également. Martin Sebujangwe à la supervision de ce magazine. Je suis Tina Salama à la présentation. Et la mise en onde a été assurée par Sylvain Matundu. Bon dimanche chez vous et à très bientôt sur Radio Capi.